Et soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence jusqu'à 9h avec aujourd'hui un navigateur. Avec lui, nous allons prendre le large grâce à ces deux expéditions qu'il a effectuées dans le cadre du Vendée Globe. J'accueille aujourd'hui pour cette émission Tendance Confidence Sébastien Lestremeau. Bonjour, comment allez-vous?
Mais ça va très très bien, ça va très très bien, sur terre et sur mer.
Navigateur, skipper français, vous avez participé à la Route du Rhum et également au Vendée Globe.
De Vendée Globe, effectivement, oui, en 2016 et en 2020. Puis après, plein d'autres courses. J'ai participé à plusieurs fois le Tour de France à la voile. Et donc, ce Tour de France à la voile partait souvent de Dieppe. Et ensuite, on faisait les ports les uns après les autres, en fonction des années. De mémoire, Cherbourg, évidemment, Saint-Ca, Perros-Guirec, enfin, toute la côte de granit et la Normandie, etc.
Alors, la météo marine n'est pas toujours clémente. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ces différents rivages que vous voyez de plus ou moins loin?
Quand on participe à des courses comme je le fais, dans ces régions-là, moi qui ai grandi en Méditerranée, on est surtout très inquiet. Des courants qui peuvent être très forts, hein, et puis des cailloux, il y a quand même quelques cailloux un peu partout. Donc on est quand même un peu inquiet parce qu'on n'est pas habitué en Méditerranée avec... ces paysages qui changent, et je me souviens d'une course qu'on avait fait entre Saint-Malo et Saint-Ca, et on n'était que des sudistes, et un des équipiers qui n'avait jamais vu la marée, en fait. Il n'avait jamais navigué en Manche. Et on part le matin de Saint-Malo pour une course, et on revient 6-8 heures après. On était parti à marée haute, on revient à marée basse, et il hallucinait de voir toutes ces îles qui avaient... émergé comme ça, en cours de route. Il dit, mais on n'est pas au même endroit, c'est pas possible. Où est partie l'eau? Et puis, qui a mis tous ces cailloux sur ma route? Donc ça, non, c'est compliqué de naviguer dans ces contrées-là. Mais c'est beau, c'est très très beau.
Sébastien Lestremeau, en 2016, vous vivez donc votre premier Vendée Globe. 124 jours en mer, et parlez-nous aussi de cette solitude qui vous accompagne.
4 mois de solitude totale, extrême. L'humain est bien fait, il oublie les difficultés, il ne garde que les bons moments. Et moi, je ne garde que les bons souvenirs de ce Vendée Globe, même si au quotidien, il y a eu des difficultés, bien sûr. Ouais, c'est 4 mois qui ont profondément marqué ma vie.
Et comment se prépare-t-on à affronter ces différents éléments? Vous partez seul à bord, j'imagine qu'à terre, il y a tout un équipage.
Ah oui, sur les deux Vendée Globe auxquels j'ai participé, on a été, sur la fin de la préparation du bateau, on a été jusqu'à 24 personnes dans l'équipe, tous bénévoles, qui donnaient de leur temps pour ce projet. Et c'est comme ça que moi j'aime bien faire le Vendée Globe. C'est avec d'abord ma famille, je m'appuie énormément sur ma famille, avec mon frère Jean-Guy qui est le directeur technique, mon frère jumeau, et sans le soutien de ma famille et l'aide de ma famille, jamais j'aurais pu participer au Vendée Globe, c'est sûr.
Beaucoup de marins-pêcheurs, beaucoup de navigateurs comme vous demandent la bénédiction, même le baptême de leur embarcation qui va porter leur vie. Est-ce que vous accordez aussi beaucoup d'importance à cette tradition religieuse?
J'ai eu la chance de pouvoir faire bénir mon bateau, alors le baptiser ou le faire bénir, moi j'ai dit bénir, mais 2 fois, une fois au départ de la Route du Rhum, une fois au départ du Vendée Globe. J'avais vraiment besoin d'avoir ces bénédictions. Je suis pas quelqu'un de très pratiquant, mais quand on part pour des aventures aussi difficiles, ben on prend toute l'aide qu'on peut. Et donc ces bénédictions, pour moi, elles étaient très importantes. C'est ce que j'ai fait juste avant le départ du Vendée Globe.
Et vous parlez de votre bateau comme d'une coquille de noix posée sur l'immensité de l'océan. Alors comment ne pas avoir peur en de pareilles circonstances, même si, évidemment, il y a d'énormes progrès technologiques?
Ah, c'est sûr que comment envisager une coquille de noix, même si nos bateaux pour le Vendée Globe sont des très gros bateaux quand on les voit dans un port. Quand on est dans les mers du Sud, c'est des toutes petites coquilles de noix. Et on se dit que résister au traitement qu'on leur fait subir, puisque quand on navigue en solitaire, on maltraite énormément le matériel, même si, enfin, c'est pas volontaire, hein, c'est du fait de notre incapacité physique à dominer la machine. Et on prie pour que la machine tienne et nous ramène à bon port. Ouais.
Et vous le savez aussi, hein, Sébastien Lestremeau, en tant que navigateur, hein, ce n'est pas autant vous qui possédez le passeport pour franchir la mer et les océans que la mer et l'océan lui-même qui vous laissent passer ou pas.
La mer va gagner, la mer va peut-être nous laisser passer, peut-être, si on a un peu de chance. Et ce qui m'a passionné avec le Vendée Globe, c'est d'abord, il faut une motivation personnelle, il faut savoir pourquoi on y va. Et moi, j'avais juste envie de savoir si j'en étais capable d'aller sur la ligne de départ. Et puis ensuite, affronter l'aventure, d'aller le plus loin possible. C'est ça qui me motive, c'est ça qui m'intéresse, ça c'est mon moteur personnel. J'ai aucune ambition de résultat sportif, comptable. Ensuite, je fais le Vendée Globe pour ce qu'il représente pour le public qui le regarde. Parce que je crois qu'on a, en tant que participant au Vendée Globe, on a une vraie responsabilité vis-à-vis du public. On peut amener ces personnes-là à se dépasser, faire des choix qu'ils n'auraient pas la volonté de faire, mais on va les aider grâce à l'exemple qu'on va leur montrer. Voilà, c'est pour ça que je fais le Vendée Globe, moi.
Et en quoi ces deux Vendée Globes, l'un réalisé en 2016 et l'autre réalisé en 2020, vous ont fait devenir le navigateur et l'homme que vous êtes en 2021 ?
Je suis quelqu'un de complètement différent. Aujourd'hui, moi j'ai changé. Il y avait donc un Sébastien Destremau avant et puis un Sébastien Destremau après. Et après ce Vendée Globe 2020, je me retrouve avec 50 plus certes, mais et ça compte. Mais aussi une immense tolérance envers les autres, une tolérance que je n'avais pas. J'étais très très intolérant. Il y a encore des choses où je manque de tolérance, bien sûr, mais je me rends compte que je dis beaucoup plus bonjour aux gens et ça m'étonne d'ailleurs. Parfois, je me regarde dans le métro ou sur la route ou peu importe et je me dis mais en fait t'es vachement sympa avec les gens là puisque tu leur as dit bonjour. Alors que ma foi avant, non, je leur disais pas bonjour, je les connais pas.
La mer et ses vagues peuvent très bien sculpter dans le caillou, mais aussi détruire avec les tsunamis. Elle vous a sculpté un tempérament en tant que navigateur ?
Vous savez, quand on passe des semaines seul, dans un environnement aussi beau mais hostile, c'est normal de laisser ces émotions nous gagner. On peut avoir envie de les rejeter, mais moi je les rejette pas. Ces émotions qu'on ressent, qui sont de la joie, de la peine, de la douleur, de l'exaltation, de la contemplation, ça nous change, ouais, ça nous sculpte, ouais, comme vous avez dit.
Avec vous, nous allons au cœur de la vie de votre passion qui est la navigation, Sébastien Destremau. Que vous inspirent les deux mots clés de cette émission, cœur et vie, que vous inspire-t-il ?
Cœur et vie, cœur c'est l'amour. Et vie, c'est ce qu'on doit protéger à tout prix.
Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez choisi en 2020 de repartir pour une deuxième expédition du Vendée Globe ?
Mes enfants et ma mère ont beaucoup aimé le premier Vendée Globe, beaucoup moins le deuxième. Pour une mère, c'est inquiétant de voir un de ses fils partir sur des aventures qui peuvent être dangereuses. Pareil pour mes enfants australiens, Jade et Marshall, qui sont jeunes, qui ont maintenant 17 ans. La première fois, ils ne savaient pas, et puis voilà, c'est une aventure que papa a envie de vivre, tout va bien. La deuxième fois, c'est pourquoi tu y retournes, en fait. C'est bon, tu l'as faite, tu as terminé le Vendée Globe, pourquoi tu y retournes ? Et c'est de l'inquiétude. Maintenant, il n'y a pas de réticence, il n'y a pas d'interdiction. J'ai fait du bateau toute ma vie, donc je sais ce que c'est que de mener un bateau. Après, ce qui change, c'est l'environnement, la distance, et ça, c'est quelque chose qui ne change pas le danger qu'il y a à bord. Ce danger, c'est le même. C'est juste que psychologiquement, on se retrouve à des milliers de kilomètres de toute terre, mais les gestes, ce sont les mêmes. Donc, tant qu'on fait les bons gestes, normalement, on risque pas grand-chose.
Et vous écrivez dans votre livre, qui a comme titre « Seul au monde », paru en 2017 chez XO Éditions, vous écrivez « De là-haut, je suis sûr que mon père, avec qui ce fut si difficile quand j'étais petit, me regarde. Peut-être même est-il étonné. » Un commentaire, Sébastien Destremau ?
Ouais, c'est ce que j'ai écrit, parce que c'est ce que je pense. J'ai eu des relations extrêmement difficiles avec mon père tout au long de ma vie. Hormis à la fin, les dernières années de sa vie où là ça s'est arrangé, mais et on a eu des très bons moments avec papa, hein, bien sûr, hein, faut pas se tromper, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement dur et moi j'étais un enfant extrêmement perturbant et perturbé, donc j'ai pris beaucoup de baffes quand j'étais petit, et c'est pas les baffes qui me gênaient, c'est simplement que c'était toujours moi qui les prenais, donc Et ça, c'était très dur à vivre. Voilà, c'était un sentiment d'injustice que je déteste. Papa, il était un artiste extrêmement renfermé. Donc, hormis le côté notoriété du Vendée Globe, je sais que participer à cette épreuve et aller aussi loin que là où je suis allé, c'est quelque chose qu'il aurait regardé avec admiration, oui, c'est sûr.
Avec vous, un mot important, celui de solidarité entre gens de mer, lorsqu'un navigateur ou un skipper est en difficulté, aller porter secours est tout à fait naturel.
C'est même pas un débat, la solidarité des gens de mer, c'est quelque chose qui est... c'est écrit dans le marbre, je sais pas sur quoi c'est écrit, mais on peut détester quelqu'un à terre, s'il a un problème en mer, on ira le chercher, on ira l'aider, on lui filera un coup de main. Peu importe qui c'est, le nom, la personne, sa couleur, son sexe, peu importe, son passé, on s'en moque en fait. On va le chercher, point. On va le chercher, on va l'aider. On met sa vie en danger pour aller le chercher éventuellement. Il y a des dizaines d'exemples. Si demain j'ai un problème, même si ce un tel, on s'aime pas à terre ou on s'aime beaucoup, enfin peu importe, hein, chacun c'est à les relations, on est 33 à prendre le départ du Vendée Globe, il y a évidemment 33 personnalités différentes et il y a des personnalités qu'on aime plus que d'autres, heureusement d'ailleurs, mais n'importe qui viendra me chercher et moi j'irai chercher n'importe qui en fait, c'est pas... Et je me mettrai en danger pour aller le chercher s'il faut, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas de sponsor, je sais pas quoi. Il n'y a rien du tout de tout ça. On met tout à la poubelle. Et on va chercher le mec ou la nana qui est en difficulté.
Alors Sébastien Destremau, même si vous êtes arrivé dernier du Vendée Globe en 2016, vous écrivez que vous avez gagné une victoire sur vous-même. Un commentaire sur ce que vous écrivez dans votre livre « Seul au monde ».
Complètement. J'ai fait dernier, 50 jours derrière le premier, un mois et demi derrière Armel Lecléache. Donc en termes de résultats sportifs comptables, c'est nul. Mais vous savez, je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'étais capable de faire. Et pour moi, cet échec, entre guillemets, de ne pas être allé couper la ligne d'arrivée, c'est pourtant une victoire personnelle de d'avoir fait ce que j'ai fait. Je ressens d'avoir vraiment gagné ce Vendée Globe alors que je l'ai abandonné en Nouvelle-Zélande. En fait, en arrivant en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert que dans mes roulements de gouvernail, il manquait une bille qui coûte 2,50 €. Et c'est pour ça que j'ai passé 5 semaines à cloche-pied, les mains dans le cambouis, à continuer ma route jusqu'au début du Pacifique.
Et c'est ce que vous racontez dans votre livre « Retour en enfer ». Vous faites demi-tour et c'est ce que vous ne faites jamais.
Pour un gars comme moi, de faire demi-tour et rentrer en Nouvelle-Zélande alors que mon bateau n'était pas en train de couler, par exemple, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. J'ai fait demi-tour au large de la Nouvelle-Zélande pour deux raisons. Mais la première raison qui m'a fait faire demi-tour, c'est de me dire « Tu sais que ton bateau n'est pas en état, t'as plus de 9 chances sur 10 de faire naufrage, d'être à la dérive en plein milieu du Pacifique, c'est à peu près certain. Et autant toi, tu peux te mettre en danger, mais mettre en danger des sauveteurs qui vont venir te chercher, ça t'as pas le droit. Parce qu'ils vont se mettre en danger pour venir te chercher. Ça t'as pas le droit, déjà, premièrement. Mais aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est des exemples. On est des exemples pour des gens qui nous regardent. Et on n'a pas le droit de leur montrer cet exemple-là, cette espèce de je m'en foutisme, de dire bah, « je vais y aller quand même, et puis de toute façon, si ça merde, on viendra me chercher ». On n'a pas le droit de faire ça, j'avais pas le droit de faire ça. Donc j'ai fait demi-tour pour ça. Un abandon dans le Vendée Globe ou une dernière place, peu importe, peut se transformer en immense victoire.
Vous avez vécu cette expérience de la navigation solitaire. Est-ce que vous comprenez autrement les personnes qui choisissent de vivre seules, comme dans le célibat par exemple ?
Alors figurez-vous, oui, je le comprends d'autant mieux que j'ai un ami d'enfance avec qui je naviguais quand lui avait une dizaine d'années, moi j'en avais 25. Et cet ami Clément est devenu moine, donc que j'ai eu l'occasion de voir au Chinacolo à Lourdes. Le Chinacolo à Lourdes qui est ce lieu où les toxicomanes qui sont perdus en fait, hein, perdus pour la vie quoi, et qui se retrouve dans ce lieu qui s'appelle le Chinacolo et Clément est là pour les aider, à trouver la foi qui va leur permettre de les sauver. Donc je comprends très très bien, pour en avoir beaucoup parlé avec Clément, de cette vie monastique que lui a menée pendant 10 ans. Mais je comprends parce qu'on, je dis pas qu'on vit la même chose, pas du tout, mais en tout cas je comprends, ouais. Je comprends cette solitude et eux la vivent en priant et voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à vivre leur solitude dans leur cellule entre guillemets, puisque c'est en plus un moine des Chartreuses, donc c'est silence, hein, silence absolu, et j'ai une profonde admiration pour ça, ouais. C'est un véritable bonheur à chaque fois qu'on se croise, ouais.
Et si vous aviez à décrire le Vendée Globe en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ?
Dans les 40e, il n'y a plus de loi. Dans les 50e, seul reste l'espoir. C'est comme ça que j'ai envie de décrire le Vendée Globe.
Et si vous étiez face à Dieu dans l'éternité, que lui diriez-vous ?
Je lui dirais merci. Je lui dirais merci parce que si je suis face à Dieu, ça veut dire qu'il existe. Et s'il existe, ça veut dire que c'est lui qui a créé ça. Donc je lui dirais merci.
Merci beaucoup, Sébastien Destrebeau, pour ce temps accordé à Tendance Ouest, au magazine Tendance Confidence.
Merci.